Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans l'émission Avenir Mode d'Emploi proposée par la Fabrique Emploi et Territoire pour parler orientation, formation, emploi, mais maintenant vous connaissez tout ça par cœur. Ce mois-ci, nous allons vous parler d'intelligence artificielle dans les associations et de services civiques dans le cadre d'une matinale organisée par la Fabrique Emploi et Territoire sur les ressources humaines. Donc je reçois quatre invités. Bonjour Pascal Bernard.
Bonjour.
Donc tu es chef du service médiation numérique au conseil départemental de la Nièvre. Bonjour Clémence Moreau.
Bonjour Virginie Charrière.
Tu es chargée de mission au DLA, donc dispositif local d'accompagnement de la Nièvre, tu nous diras ce que c'est. Bonjour Élise Provost.
Bonjour.
Tu es informatrice jeunesse au bureau information jeunesse qu'on appelle, qui s'est rebaptisé Info Jeune Nièvre. Et donc bonjour Chloé Guérin.
Bonjour.
Tu es alternante attachée commerciale à Info Jeune Nièvre justement et tu as fait un service civique au sein du bureau information jeunesse et tu nous en parleras plus tout à l'heure. Déjà on peut commencer par donc Clémence, je disais tu es chargée de mission du dispositif local d'accompagnement, alors c'est un beau dispositif mais des fois on voit pas trop ce qu'il y a derrière, est-ce que tu peux nous en dire plus et
oui.
Surtout le fait que ce dispositif organise des collectifs à destination des associations et du coup après on verra avec Pascal le sujet de l'intelligence artificielle.
Alors oui, merci Virginie. Alors le DLA, c'est un dispositif qui accompagne en fait les structures de l'économie sociale et solidaire et principalement les associations employeuses. En fait, le DLA, il est là pour apporter un appui en fonction des besoins des structures. Donc par exemple, je vous donne des exemples, renforcer la gouvernance, faire évoluer l'organisation interne, le modèle économique, évaluer l'opportunité de porter une nouvelle activité par exemple. Et pour ça, en fait, on a deux modalités d'accompagnement. On a l'accompagnement individuel et l'accompagnement collectif. Alors, les collectifs, comme le nom l'indique, en fait,
l'idée... Ils sont en collectif, non ?
Exactement, bravo Virginie.
Ouais.
Donc les collectifs, ils consistent à aborder en fait une thématique en lien avec l'actualité, les problématiques rencontrées avec les structures en individuel et avec l'intervention d'un expert, ça c'est important, le DLA en fait fait appel à une expertise externe ou une experte, hein, expert ou experte, en collectif. Et l'intérêt est de rencontrer d'autres structures qui rencontrent les mêmes problématiques et partagent des solutions. C'est l'occasion de faire réseau. Ça, c'est important, de favoriser l'entraide et le partage d'expériences.
Mmh. Ok. Et donc, il y a eu plusieurs sujets qui ont été abordés, parce qu'en fait, la Fabrique porte le dispositif depuis 3 ans. Ça va être la 3e année.
C'est
et
ça.
Donc là, tu as décidé, ou en tout cas de manière un peu collective aussi,
oui.
De t'intéresser à l'intelligence artificielle.
Exactement.
Et d'organiser un collectif sur ce sujet.
Alors, ça vient de moi, entre guillemets, mais ça m'a été aussi suggéré par une structure, une association que j'ai rencontré en individuel, donc ça part pas non plus de nulle part. Et alors pourquoi le sujet de l'intelligence artificielle ? Bah, tout simplement parce que c'est incontournable aujourd'hui, en fait tout le monde en parle. Et en fait ce que j'ai pu observer c'est que d'un côté les associations se posent des questions sur l'éthique autour de l'IA, donc se posent des questions sur est-ce bien raisonnable, les impacts environnementaux, etc. etc. Et d'ailleurs beaucoup sont réfractaires en fait à l'IA d'office. Et puis de l'autre, en fait, il y a des associations qui croulent sous l'administratif aujourd'hui. Il y a beaucoup, comme dans toutes les entreprises d'ailleurs aujourd'hui, voilà, beaucoup de papiers à remplir, les financeurs qui demandent de plus en plus de justificatifs. Et donc l'IA peut être aussi une solution pour soulager les équipes. Donc face à ce constat, en fait, il nous a paru en fait important de proposer un temps avec une intervention neutre, donc ni pro ni réfractaire sur les IA, pour que les structures s'informent et se questionnent en tout état de cause. Et c'est pour ça que le DLA a décidé de travailler avec le service accompagnement numérique du conseil départemental de la Nièvre. Donc c'est une fantastique transition pour Pascal,
oui.
J'ai envie de dire.
Exactement. Et donc Pascal, je disais, tu es chef de service, donc service médiation numérique ou accompagnement numérique ?
Accompagnement numérique,
ah, pardon.
On peut dire médiation numérique.
D'accord,
aussi,
donc c'est moi
très
qui...
gênant.
Ok. Service accompagnement numérique. Et donc, effectivement, comme disait Clémence, l'intelligence artificielle, on en entend énormément parler, aussi bien pour les particuliers, dans les entreprises, dans les associations et dans les médias. Hein. Alors, on entend, on va dire, pas tout et n'importe quoi, mais en tout cas, tout le monde a un avis sur le sujet. Mais en fait, finalement, de quoi parle-t-on quand on parle d'intelligence artificielle ?
On parle de quelque chose qui est très ancien, déjà. En fait, alors une petite question, est-ce que vous savez à quel moment on a, pour la première fois, prononcé, parlé d'intelligence artificielle ? En quelle année, à votre avis ? Dans quelle période ?
sais pas.
Vous ne savez pas. Eh ben, c'est dans les années 50. Le premier qui a utilisé ce terme d'intelligence artificielle, c'était en 56. Il y a eu des expériences qui ont été menées par Turing sur la démonstration de ce que pourrait être l'intelligence artificielle dans ces années-là. Donc c'est quelque chose qui date. Voilà, il y a quelque chose de complexe qui a été créé au cours de ces 50 dernières années, voire même plus, 70 ans maintenant. On a découvert cette intelligence artificielle très tardivement au niveau du grand public avec l'arrivée de ChatGPT en 2022, où là, on a vraiment été plongé dans cet univers, alors qu'en réalité, c'est quelque chose de très ancien et qui a progressé, de façon, par étape sur les 70 dernières années.
C'était peut-être dans un milieu plus... on va dire informaticien, et du coup là le ChatGPT peut-être c'est l'accès qui a changé.
C'est ça, c'est toute la différence, c'est que ChatGPT c'est un outil qui a été mis à la disposition de tous gratuitement. C'est loin d'être gratuit, on pourra en reparler, mais en tout cas c'est un outil qui est devenu accessible pour tout le monde très facilement avec ce qu'on appelle un prompt, c'est-à-dire un système qui permet de poser une question et d'en attendre une réponse ou une réponse qui peut être sous forme de photos, de vidéos, de textes, etc. Donc très facile d'utilisation et c'est la démocratisation en fait de l'intelligence artificielle.
Et justement, tu disais, c'est loin d'être gratuit. Et comme disait Clémence, c'est les impacts. Tu parles des impacts environnementaux ou pas que. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu voulais dire?
Deux types d'impacts. Dans la proposition qu'on a fait à Clémence dans le cadre du DLA et sur une intervention dans un cadre collectif auprès des associations, on s'est dit, il faut vraiment aborder l'IA sous toutes ses dimensions, le côté positif, le côté négatif, évidemment, en étant le plus neutre possible, parce que il y a beaucoup de débats, ce que tu disais à l'instant, il y a beaucoup de choses vraies, fausses qui circulent, tout le monde a son opinion, c'est complexe, c'est très complexe techniquement, c'est quand même quelque chose qui est pas facile à comprendre parce qu'il y a plein d'intelligences artificielles différentes. Pas d'intelligence artificielle générative, cognitive, prédictive, etc. Donc, il faut aussi être capable de comprendre les différences entre ces divers process. Donc, ça, c'est déjà un premier point qu'on va aborder. C'est expliquer les différences entre les intelligences artificielles. Mmh. Et puis derrière, assez rapidement, on va parler des impacts. Donc, les deux impacts principaux sont environnementaux. Là, on va développer au cours de cette journée avec les associations tout ce que ça représente en termes de conséquences environnementales. C'est loin d'être neutre et je pense que c'est important, on pense que c'est important d'avoir bien conscience de ce que ça produit derrière, de quelles conséquences ça peut avoir pour justement ensuite être capable de faire les choix les plus judicieux. Et puis il y a aussi les impacts sociaux qui sont loin d'être neutres aussi et qui vont représenter une bonne partie de notre journée parce qu'on va parler à la fois de ce que ça représente en termes de relations au travail, d'impact sur son propre travail et puis plus généralement sur les usages qui peuvent être développés, parfois vus de façon négative et heureusement parfois positive aussi.
Et quand tu disais l'impact sur notre travail, c'est par rapport au... par rapport aux ressources humaines dans une association, par exemple, ça peut avoir un impact sur quoi alors? Sur le fait de traiter, des données, ça c'est peut-être plutôt positif.
La première question qui est posée quand l'intelligence artificielle arrive dans une entreprise ou dans une collectivité, c'est est-ce qu'elle ne va pas me remplacer? Ça c'est déjà la première angoisse qui atteint l'employé, c'est est-ce que mes tâches vont pas être complètement remplacés par une intelligence artificielle. Donc il faut être capable d'expliquer comment ça va s'intégrer, donc les précautions à prendre pour intégrer de l'intelligence artificielle, ne pas le faire n'importe comment, et puis expliquer aussi ce que ça peut être, ça peut représenter comme aspect positif pour l'employé, parce qu'il y a aussi des automatisations qui sont tout à fait intéressantes, donc il ne faut pas rejeter en bloc l'arrivée de l'IA, mais on comprend déjà que ça crée une anxiété au travail. Les premières études qui ont été suivies de l'installation d'une IA dans des entreprises ont montré qu'il y avait systématiquement une anxiété qui s'installait au niveau des employés. D'abord pour cette raison-là. Ensuite, en termes de compétitivité, on va dire, c'est ouais, mais je suis en train de me rendre compte que l'IA, elle est capable de faire beaucoup mieux que moi. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez angoissant. Donc voilà, il y a plein de choses, plein d'aspects qu'on pourra aborder avec les associations qui peuvent être impactées comme toute autre structure. Donc,
oui, c'est ça, c'était un peu ma question aussi. Enfin, Clémence, vous avez un peu répondu, mais en fait, pourquoi aujourd'hui c'est important d'amener ce sujet et de pouvoir justement un peu, parce que le titre c'est l'intelligence, le vrai du faux, comment justement, enfin, les associations aujourd'hui, tu as l'impression, Clémence, qu'elles sont peut-être un peu loin du sujet, elles s'y intéressent un peu, elles ne savent pas trop comment faire?
Alors, je pense que certaines sont loin du sujet, beaucoup sont réfractaires qui préfèrent en fait mettre une sorte de voile dessus en disant ça n'existe pas.
Rapport à leurs valeurs peut-être.
Par rapport
aussi,
à leurs valeurs, parce qu'en fait il y a un côté on ne sait pas où ça part. Il y a des données, on ne sait pas comment elles vont être utilisées par la suite. Il y a la question aussi des données aussi. Qu'est-ce qu'on va en faire après? Est-ce que par qui ça va être traité par la suite? Enfin, il y a des questions éthiques, éthiques, philosophiques, sociales, environnementales. En fait, l'IA, ça bouleverse énormément de choses. Et le monde en fait associatif, qui est un monde de militants, imprégné de valeurs, se pose des questions par rapport à ça. Donc il y a le côté réfractaire, mais il y a aussi un discours qui est aussi très, très présent en disant, mais vous, les associations, vous croulez aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, sous l'administratif. Si vous confiez à une IA tout ce qu'elle peut traiter à votre place, vous pouvez avoir plus de temps pour l'humain. Donc il y a aussi ça derrière, c'est aussi ces deux idées-là qui se combattent en fait. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui sont perdues, et l'idée vraiment de cette journée, c'est de leur permettre en fait d'avoir des informations, on va dire, neutres et claires sur si j'utilise l'IA, pourquoi, comment, et je suis éclairée entre guillemets dans l'utilisation que je vais en faire ou pas.
Ok,
voilà, je sais pas si je peux résumer comme
mais
ça.
Oui, et nous on va essayer d'apporter des solutions aussi. On va examiner les besoins avec les associations, leurs besoins, et essayer de voir si l'IA peut effectivement apporter parfois des solutions. À quel coût? Voilà. Quel impact ça peut représenter? Parce que c'est pas... Alors, c'est gratuit pour ChatGPT et facile d'accès. Il faut savoir que c'est quand même très limité, et que dès qu'on veut obtenir des process qui soient adaptés à des situations bien précises au monde de l'association, au monde de certaines entreprises, on va tout de suite tomber sur des modèles payants qui peuvent avoir un coût assez important. Donc, il faut aussi parler de ça.
Ok, ben, c'est très très clair. Donc, on se donne rendez-vous, en tout cas pour les associations qui sont intéressées. Donc, c'est les équipes des associations qui peuvent participer à ce collectif, donc qui est pris en charge par le DLA, donc gratuit pour les associations. Et donc, c'est le 4 septembre. Donc, pour toute association qui est intéressée, contactez Clémence, soit sur le site de la Fabrique, lafabriqueemploi.fr. Et sinon, j'avais noté ton numéro de téléphone quelque part.
Qui est 07 44 60 28 72.
Ok, merci beaucoup. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec NoFX. Don't call me white, don't call me white, don't call me white, don't call me white. The connotations where in my nuts been? Could it be some magic generating the mess we're in? I understand that language breeds stereotypes, but what's the explanation for the malice, for the spite? Don't call me white, don't call me white, don't call me white, don't call. Being thirsty now, I ain't. retour sur l'antenne de BAC FM 106.1. Nous sommes dans l'émission Avenir Mode d'Emploi. Donc nous avons parlé d'intelligence artificielle et d'associations. Et là, nous allons continuer de parler des associations, mais avec un volet aussi sur les ressources humaines, puisque Clémence, je vais te relaisser la parole. Nous organisons une matinale sur le thème des ressources humaines, un peu dans le même état d'esprit de se dire aujourd'hui il faut qu'on soit un peu au courant de ce qui se passe au niveau des manières de recruter, des manières de fidéliser les salariés, hein, un peu comme dans une entreprise finalement. Et là, le sujet qui va être abordé plus précisément, c'est le service civique.
Alors oui, alors en fait il y a deux sujets qui vont être abordés lors de cette matinale RH, donc le 30 juin à 9h à la Boussole à Nevers. Donc il y a deux sujets, il y a l'apprentissage et le service civique. Donc je laisserai à mes collègues le soin de parler plus spécifiquement des services civiques. Je voulais juste dire que pourquoi on a décidé avec Cataline, qui est à la fabrique chargée de mission info RH 58, et puis le DLA, donc moi en l'occurrence, on a décidé de travailler sur ce sujet en partenariat avec le Bureau Information Jeunesse. C'est parce que les ressources humaines aujourd'hui, c'est un vrai enjeu pour l'ensemble des entreprises et évidemment les associations employeuses. Certaines sont des fois un peu démunies sur des questions d'ordre, on va dire, donc le recrutement, l'intégration des salariés, etc., etc. On avait fait une matinale d'ailleurs sur ce sujet il y a quelques mois de cela. Et là, en fait, on s'est dit qu'on allait changer un peu la formule et qu'on allait faire une sorte de temps court, hein, qu'on appelait flash. Alors flash, ça fait très photographie photo, mais c'est quelque chose d'assez rapide et condensé. Pour permettre en fait aux structures d'avoir des informations, on va dire, claires sur notamment le cadre législatif et puis qui permettent aussi évidemment, comme on le disait tout à l'heure, du réseau, échanger en direct de l'humain, pas de l'IA pour le coup, quelque chose d'assez humain et voilà. Donc c'est ça l'objectif de cette matinée d'une heure, de 9h à 10h avec du café et des croissants. Et je laisse du coup la parole à mes collègues pour compléter.
Oui, donc c'est le 30 juin, on le redira de toute façon avant la fin de l'émission. J'ai présenté tout à l'heure Élise et Chloé. Merci de venir témoigner à ce micro. Donc Élise, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est un contrat en service civique ?
Oui, bien sûr, le service civique, c'est avant tout un engagement volontaire et non un emploi. C'est pour les jeunes entre 16 et 25 ans et jusqu'à 30 ans si on est en situation de handicap. L'idée, c'est de s'engager dans une mission d'intérêt général, par exemple dans l'environnement, la solidarité, la culture, la santé. Il y a 10 domaines sur lesquels nous pouvons nous engager. On est là pour aider, apprendre et aussi réfléchir à son avenir. C'est souvent une super première expérience.
Et là, on verra que Info Jeune peut effectivement accompagner et renseigner les jeunes qui sont intéressés. Et du coup, du côté, alors justement, côté jeune et côté employeur, donc tu l'as dit au niveau des âges et des secteurs, du coup, au niveau des jeunes, quel est le profil en fait des jeunes qui peuvent être concernés au-delà de l'âge? Alors, on a bien compris entre 16, 25 ans jusqu'à 30 ans quand on est en situation de handicap, mais quels sont les autres conditions?
C'est ça, mais en fait, il n'y a pas d'autres prérequis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de diplôme, pas besoin d'expérience spécialement. C'est vraiment pour tous les jeunes dans cette tranche d'âge. Voilà, il suffit en fait d'avoir envie de s'impliquer.
Ok. Et du côté des employeurs, du coup, c'est toutes sortes d'employeurs?
Alors non, okay. Du coup, on est plutôt sur des structures à but non lucratif, collectivités. Donc ça peut être dans des mairies, dans des associations, dans des écoles, dans des hôpitaux par exemple.
Ok, donc en fait tout ce qui est à but non lucratif, c'est-à-dire pas les entreprises,
exactement,
mais toutes les autres structures.
C'est ça.
Et donc concrètement, comment ça se passe? C'est-à-dire la durée, enfin comment c'est organisé?
Alors le contrat dure entre 6 et 12 mois avec une mission, alors généralement c'est 24 heures mais ça peut aller jusqu'à 35 heures, mais on tourne bien souvent à 24 heures par semaine. Le jeune reçoit une indemnité d'environ 620 € par mois, il est accompagné donc par un tuteur au sein de la structure et tout au long de sa mission. Pendant cette mission, il aura l'opportunité de passer des formations, donc une formation plutôt à visée citoyenne, donc la formation civique et citoyenne. Okay. Et du coup, il pourra aussi passer la formation aux gestes de premier secours, le PSC1.
Ok. Alors, on verra après avec Chloé l'exemple concret de son service civique. Mais est-ce que tu peux nous donner quelques exemples de missions qu'on peut faire en service civique?
Oui, par exemple, organiser donc des ateliers pour sensibiliser au tri des déchets dans une association environnementale. Ça peut être aussi aider à l'animation dans une école ou dans un centre social, accompagner des personnes âgées dans une maison de retraite, ou encore participer à des projets culturels ou sportifs avec des jeunes.
Ok. Oui, c'est toujours des missions qui ont du sens et qu'on se sent utile.
Exactement.
Du coup, un petit mot de la fin par rapport à ce service civique, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait un anniversaire.
Exactement. Alors déjà, le service civique, c'est une belle opportunité. On apprend, on gagne en confiance, on découvre des métiers. Donc, comme je le disais tout à l'heure, ça peut être une première expérience. Donc, ça ouvre après la voie vers un projet professionnel ou une formation. Et effectivement, cette année, c'est un peu spécial parce qu'on fête les 15 ans du service civique.
Déjà ?
Et oui. Donc, à cette occasion, on organise un grand événement festif. Donc, ce sera début septembre avec un service civique dating. Donc, voilà, une super opportunité pour les jeunes qui cherchent une mission et pour des structures qui recruteraient éventuellement. Ça sera un moment donc plutôt convivial pour se rencontrer, échanger et pourquoi pas trouver future mission ou un volontaire. Donc on vous donne la date très bientôt sur nos réseaux, alors restez connectés. Et pour candidater ou en savoir plus sur le service civique, vous pouvez aller sur le site du servicecivique.gouv.fr.
Ok, merci Élise. Et puis donc on va constater avec Chloé qu'après un service civique, il y a une vie dans une structure, puisque Chloé, tu es restée au bureau information jeunesse pour te former. Et donc tu as fait un service civique sur quelle mission?
Eh bien du coup, moi j'ai fait un service civique sur la carte avantage jeune.
D'accord.
En fait, je suis arrivée au bureau information jeunesse en laissant mon CV, ma lettre de motivation. Et Cécile Castan m'a gentiment proposé de m'occuper de la carte avantage jeune avec Maëlys Préau.
Et du coup, qu'est-ce qui t'a plu alors dans cette mission? Parce que tu n'avais pas travaillé avant, c'est ça?
En fait, si, je sortais du système scolaire.
D'accord.
J'avais fait des études pour être professeure des écoles et en fait, j'ai échoué. J'étais un peu perdue et je me suis dit, plutôt que de rien faire, je vais essayer le service civique. Ma petite sœur, elle en avait fait un juste avant moi et je savais que c'était une mission sur 6 à 8 mois. Mmh. Et du coup, je me suis dit, allez, le temps de réfléchir et de savoir ce que je veux faire, je me lance là-dedans. Et
ok,
voilà.
Et c'était tes premières missions en milieu professionnel, parce qu'on a bien compris que ce n'était pas un emploi.
Exactement. Ok,
et donc c'était une partie commerciale, c'est ça,
en fait,
de
c'est
vente
ça,
de la carte.
C'est ça, je devais faire la promotion de la carte avantage jeune, faire tenir des stands dans des collèges, des lycées, la présenter pour la rentrée dans les facs. Je m'occupais de la com aussi sur les réseaux sociaux, enfin... C'était un poste très, très riche.
Ok. Et donc, visiblement, ça t'a plu, en tout cas, comme t'en parles. Du coup, pourquoi pour toi, c'est une bonne formule, le service civique, on va dire, pour mettre un premier pied? Alors, je ne dis pas que c'est un emploi, on a bien compris, mais pour mettre le premier pied dans une structure employeuse.
Et justement, ça permet de découvrir le milieu professionnel totalement, de toucher un peu de sous malgré tout, parce que quand on est jeune, avoir 620 euros, c'est quand même pas mal tous les mois. Et puis, c'est quand même un rythme qui est assez tranquille, on va dire, 24 heures à 35 heures par semaine, ça se fait facilement. Et c'est ça, c'est découvrir tout le milieu professionnel, avoir des collègues, se lever pour aller travailler tous les matins, même si c'est pas un travail en soi, c'est quand même des responsabilités qu'on prend et c'est super chouette.
Et donc je disais, à la suite, là t'es en train de te former.
C'est ça.
Donc tu es restée à InfoJeune.
C'est ça.
Et donc là c'est la suite, on va dire, ou c'est d'autres missions?
Non, c'est la suite, ça continue. En fait, c'est Cécile Castan, ma directrice, qui m'a proposé en gros de rester sur le poste de la carte avantage jeune parce que elle m'a trouvée compétente dans le domaine. Et elle m'a proposé de m'inscrire à la CCI et de faire les un an de attaché commercial.
D'accord.
En alternance. Et du coup, je suis toujours sur le poste de la carte avantage jeune au bureau information jeunesse.
Ok, et donc un peu de formation, un peu de terrain.
Exactement.
Et donc maintenant, c'est un vrai contrat pour le coup. On peut parler d'emploi.
C'est ça, exactement.
Et toi, la formule te convient?
Oui, j'adore ça.
Ouais, okay.
Vraiment.
Bon, merci. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter, Élise, sur le service civique ou Chloé? Non, je pense que vous avez été super clair, merci beaucoup. L'intelligence artificielle, on a fait le tour. La matinale, ouais.
Ça dis-moi. Devrait pouvoir remplacer tous les services civiques prochainement.
Non, on va faire en sorte que non, parce qu'on voit bien que, comme dit Chloé, il y a quand même, enfin, tout le monde a sa place et les missions. Je suis pas sûre moi que toutes les intelligences artificielles puissent remplacer les Chloé Guérin. Tu vois.
Pas espérer ça.
On parle d'humain quand même. Ouais. On reste un peu humain.
En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu à ce micro. Donc, je rappelle que la matinale, si vous êtes intéressé, donc si vous êtes une association, que vous êtes intéressé, c'est le 30 juin, je ne sais pas quel
c'est
jour de la
lundi.
Semaine. C'est un lundi. Le lundi 30 juin et le collectif l'intelligence artificielle, le vrai du faux, c'est le 4 septembre. Je n'ai pas le jour de la semaine.
Et je crois que c'est un jeudi.
Parfait. Lundi 30 juin, jeudi 4 septembre.
On croise les doigts que c'est un jeudi. Et vous vérifierez sur vos calendriers.
Voilà. Donc, pour joindre Clémence, c'est lafabriqueemploi.fr. Pour joindre Élise ou Chloé, c'est Info Jeune Nièvre. Et donc, c'est à la boussole où vous allez tout trouver, tout ça sur Internet. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Et puis, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission d'Avenir Mode d'Emploi.